Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau week-end passé ensemble, le matin en tout cas. Nous avons beaucoup de choses à vous dire, d'autant qu'il s'est passé, je dois bien vous le dire aussi, énormément de choses cette nuit. Donc voilà, on va en parler dans cette émission. Au sommaire aujourd'hui, l'équipe de France et Didier Deschamps en souffrance en quart de finale de la Ligue des Nations. Quart de finale, allez, évidemment. Avez-vous peur du combat de trop pour notre sélectionneur? Je vous poserai la question. Ce sera la une des GG. Une semaine après le tournoi des Destinations, nous allons nous projeter avec ce 15 de France vers la prochaine tournée en Nouvelle-Zélande cet été. Faut-il absolument emmener les cadres? Possible, impossible. Vous me direz ce que vous en pensez. Ce sera le bras de fer à 10h. Et puis 11h, nous reviendrons aussi sur les violences en tribune qui ont eu lieu le week-end dernier en Ligue 1. Violences verbales, violences physiques. Faut-il systématiser les matchs perdus sur tapis vert? Ce sera notre question. Puis je vous le disais, il s'est passé beaucoup de choses cette nuit, notamment nous avons appris la mort de la légende de la boxe, George Foreman. On en parlera à 10h30, également le Grand Prix de Chine avec les qualifications, la pole position d'Oscar Piastri, mais aussi, c'était l'événement, la première victoire de Lewis Hamilton avec Ferrari lors de la course sprint. Et puis nous avons une Française qui est devenue cette nuit championne du monde de saut à la perche. C'est une première dans l'histoire. Bref, voilà pourquoi il faut rester avec nous jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport. Ce matin, je vous les présente. Une grande gueule qui, comme Adrien Rabiot, on a déjà pensé à lui faire une petite banderole. Christophe Sessieux, salut Christophe.
Vas-y, essaye de parler de mon père. Mais là, je vais t'en coller une, mon pauvre. Direct.
Je peux faire une banderole drôle sans forcément parler de la famille, mais on y a déjà pensé à la banderole.
Toi et ton humour, me laisse quoi?
Quoi? T'as bien raison. Ça va, mon Christophe?
Ça va.
Très heureux de te retrouver.
Bah ouais, je suis triste que Big George nous ait quitté. Ça, c'était une légende de la boxe.
Et je sais que ça te passionne évidemment, la boxe. Et je sais que t'as beaucoup de choses à nous dire. Et je le disais, on en parlera à 10h30. Une grande gueule qui, comme Adrien Rabiot, il a déjà, c'est vrai, peut-être un jour retourné sa veste. Denis Charvet. Salut, Denis.
Oui, bonjour. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu.
T'as retrouvé la lumière, tu savais où était le studio.
J'ai retrouvé.
Un mois que t'as pas fait l'émission.
Mais j'étais sur le tournoi, il y avait du boulot quand même. Avec Christophe qui m'a accompagné, qui a été formidable.
J'étais sur le tournoi. On bronze comme ça dans les îles britanniques.
J'ai fait un petit écart à Val d'Isère, si vous voulez.
Ah oui,
il a fait beau.
Ah, le 15 de France a joué à Val d'Isère.
Il y avait un stage. Oui.
Tu vois, ça se préparatoire. Après moi, le jour du match de Dublin, il était tout bronzé. Enfin, il était tout rouge. Plus exactement. Il a fait une fête incroyable avec le prince Albert de Monaco. On l'a récupéré le matin du match. Il était cramoisi.
Tu sais, je ressemblais au président qui est descendu des tribunes.
Oui, le président de la République d'Irlande. Oui, très bien. Avec la canne, c'est pas beau de se moquer des gens qui ont des cannes quand même, dis donc. Une grande gueule qui, comme Adrien Rabiot, il aurait rêvé de connaître le médecin de la Juve, Jérôme Pinault. Salut Jérôme.
J'en ai connu des médecins.
Oui.
Peut-être aussi bon que celui-là.
Moi, évidemment, je vais sur rmcsport.fr et puis je vais aussi sur la concurrence, l'équipe, pour m'informer. Et puis là, j'ouvre le journal. Quoi ? T'es dans le journal avec Zizou ?
Non, Zizou est dans le journal avec
Zizou. Pardonne-moi.
Tu regardes quand même ses pieds pour voir comment...
Lequel des deux était le plus connu des deux chauves ?
C'est toi, évidemment. Non,
j'étais à Limoges mercredi dernier. Pour une association, pour les défis solidarité, organisé par Jean-Pierre Caracchio, que j'embrasse, qui est le notre maître à tous, et tous les managers général du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges, où je suis passé, voilà.
C'est trop long, ça. Moi, je veux savoir Zizou, il va en équipe de France ou pas.
On a invité 2-3 copains, et Zidane était là.
Il est dur à dire,
je veux pas faire le malin, c'était un grand honneur pour moi.
Il a
J'ai joué au football avec Dieu, il peut m'arriver ce qu'il peut maintenant.
T'as marqué?
J'ai marqué? Non, j'ai pas marqué.
Et lui, il a marqué. Lui, il a fait le show.
Lui, il a pas besoin de jouer tellement, en fait. Il est là et la salle l'attend, lui. Il a joué 20 minutes. Un mec adorable, un mec formidable. Évidemment, j'ai toutes les infos concernant son avenir.
Oui, bien sûr.
Je les donnerai plus tard.
Et puis tu lui as proposé de faire les grandes gueules du sport. Il t'a pas regardé.
C'était un très grand moment. Il y a un moment sur le parquet, il y avait Zidane, il y avait Thierry Omeyer, Yannick Nianga, que des grands. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait? Et maintenant, je suis en studio avec Denis Charvet.
Denis Charvet, c'est fou, ouais. Qu'est-ce que tu fous là également?
Faire partie d'un grand monde, tu vois.
Et puis, une grande gueule qui, comme Adrien Rabiot, en fait, elle a toujours eu le PSG dans son cœur. À vous, maintenant. Merde, Marion Bartoli.
Salut, Marion.
Bonjour à tous.
Ça va, Marion?
Je suis pas énervé, hein.
Ça va très, très bien.
Bon, en plus, Lewis Hamilton s'est imposé cette nuit. On en parlera dans une demi-heure.
Ah, j'étais trop
forcément.
C'était fabuleux.
Ça va bien. En tout cas, je suis heureux d'être avec vous. Je sens que ça va être une grande émission. Je vous le disais, chers auditeurs, on a beaucoup de choses à vous raconter. Et notamment, faut bien rester avec nous. Il y a le grand jeu des 100 000 qui fait son retour sur RMC. À n'importe quel moment dans cette émission, il y aura un top inscription. Je vous dirai tout. 100 000 euros se gagnent uniquement sur RMC. Allez, on débute cette émission avec Tony Duvert qui a dit un jour, chaque année, j'ai un an de moins que l'année d'après. Dieu sait comment ça va se finir.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Il y a eu des erreurs monumentales sur ce match-là.
Ivan Perisic, cette fois-ci, est côté gauche. Il va centrer. Perisic, la tête. Et Mike Maignan qui ne peut rien faire. Le but. Et ouverture du score.
Et tu crois que c'est facile d'être au top tous les jours,
hein? Oui, on est bien. Un petit peu de fibrilité au départ, mais bon.
Kramaric qui a le ballon dans la surface de réparation. Batoumia qui va frapper derrière avec un frappé de but de la part de Perisic.
Il y a 20 ans, t'étais le meilleur, le king, le top.
C'est un leader d'attaque. Après, qui s'exprime pour moi.
Il le sait.
C'est terminé. Ici à Split avec la victoire de la Croatie 2-0.
Et la du team d'RMC. Et la Dream Team d'RMC.
Alors ressaisis-toi, hein, saisis ta chance.
Et la Dream Team d'RMC. Non, j'ai arraché.
Alors c'était le match d'après pour Didier Deschamps, le match d'après l'annonce de son départ des Bleus à l'issue de la Coupe du Monde 2026, peut-être juste un accident, c'est vrai, en tout cas son équipe a sombré en Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations pour sa dernière ligne droite en tant que sélectionneur. Eh bien c'est un faux départ, la musique qui fout les jetons est cette question. Didier Deschamps, est-ce que vous avez peur, mais GG, du combat de trop? Oui ou non? On est sur votre sensation, même si on supporte tous notre équipe de France, oui ou non? Denis Charvet.
Ouais, j'ai dit oui parce que je suis un rêveur.
Oui, t'as peur du combat trop?
Non, j'avais pas peur. Pardon, j'avais dit non et j'ai peur du combat de trop.
Alors on va la refaire. Avez-vous peur du combat de trop, Denis Charvet?
J'avais dit non.
Est-ce que je peux revenir?
Mais maintenant je dis oui.
Oui, non, parce que je peux revenir. Tu dis oui. Tu dis oui.
Oui, parce que je pense que c'est le dernier, son combat de trop.
Ok, Jérôme Pinault.
Non, moi j'ai dit non et j'arrive sur le nom.
Christophe Cessieux. Christophe.
C'est vrai, non, mais j'ai réfléchi. J'ai
un peu du combat de trop.
Toi c'est oui, ok. Mario Bartoli.
Est-ce qu'on est sûr que Denis a décuvé? Ça c'est ma question.
J'ai pas peur
du combat de trop.
Ok, bon, c'est un beau duel, hein. Il y aura de oui, il y aura de non. Enfin normalement, on va voir ça dans quelques instants. On va retrouver tout de même notre reporter foot,
faire, hein, non,
qui était en Croatie, ouais. C'est Valentin Chabin. Salut Valentin.
Salut à toutes et à tous.
Alors c'est vrai que le sélectionneur se lance dans une dernière année délicate, hein. On en a déjà parlé dans cette émission, entre la gestion des hommes et puis cette volonté de finir en beauté.
Oui, avec l'objectif affiché, ambitieux, assez clair, de partir en gagnant le Mondial 2026. En tout cas, briller jusqu'au bout, ça a été réaffirmé par Didier Deschamps. C'était avant ce match contre la Croatie.
J'ai la même énergie, la même envie, la même détermination de tout faire par rapport aux échéances qui sont les nôtres pour maintenir l'équipe de France où elle est depuis de nombreuses années. Et je suis focalisé sur les objectifs qui sont les nôtres et avec la même détermination et faire en sorte que l'équipe de France continue d'être performante.
Mais le terrain a donc montré qu'il y avait du boulot. Peut-il remobiliser son groupe, relancer un cycle alors que ses joueurs savent qu'il ne sera plus là dans un peu plus d'un an? C'est dur de répondre en fait parce que sa situation, elle est inédite, mais en 2004 par exemple, le sélectionneur Jacques Santini annonce en mars qu'il quittera son poste après l'Euro. Résultat, une élimination en quart dont se rappelle l'international Jérôme Rothen.
Pour focaliser tout un groupe, pour jouer la gagne, il faut que tout le monde soit soudé. Et quand vous connaissez déjà l'avenir du sélectionneur, c'est compliqué parce que le haut niveau, c'est des détails. C'est aussi un discours du coach qui doit être suivi par tout le monde. Moi, j'ai senti des joueurs, au bout d'un moment, un petit peu démobilisés, un peu ailleurs, parce que le discours, il leur passait au-dessus de la tête.
Alors justement, Jacques Santini lui-même n'a pas du tout le même avis, d'autant que Didier Deschamps a bien plus de temps, lui, à gérer avant son départ et connaître très bien son groupe.
Sincèrement, au niveau où sont les joueurs de l'équipe de France dans leur approche psychique de ces événements, je ne pense pas. Là, comme dit Didier, après, c'est vos collègues, c'est vous aujourd'hui qui appréciez ou pas ce genre de décision.
En tout cas, pour Deschamps, il faudrait gagner demain pour ne pas installer le doute. Né après une année 2024 déjà poussive, hein, 50% de victoires seulement et un tout petit peu plus d'un but par match.
C'était Jacques Santini ou c'était Giscard ?
Ah,
oh, je sais pas. Merci beaucoup Valentin Jamin. Tu restes avec nous pour ce débat. Tu vois qu'on
avec
va,
grand plaisir.
On va débattre, on va aussi se marrer hein, dans cette émission. C'est aussi le principe.
On fait toutes des imitations, c'est ça ?
Des grands du sport, oui, oui. Exactement. Avez-vous peur du combat trop ? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Je vais voir Christophe pour commencer parce que c'était un oui franc et massif. Parce que j'ai peur du oui de Denis Charvet. Denis, j'arrive dans quelques instants. Pourquoi oui ?
Alors, oui, parce que c'est toujours le risque quand on n'a pas tout à fait l'intention de s'arrêter, qu'on repousse à chaque fois les limites, même s'il les a fixées. Et là, c'est encore, d'ailleurs, encore un peu plus risqué d'avoir annoncé son départ à une date donnée. Parce que aujourd'hui, on l'a bien compris dans les interviews qui ont précédé ce rassemblement, concernant Kylian Mbappé, il n'y a qu'une question qui intéresse les journalistes, c'est alors, Zidane, ça a bien se passé, vous l'avez eu, vous avez dîné avec lui, qu'est-ce que vous en pensez, ça va bien. Donc Deschamps est déjà mis sur la touche quelque part par ses joueurs et arriver à tenir son groupe comme ça pendant encore plusieurs mois avec l'ombre, déjà qu'elle était importante, l'ombre de Zizou au-dessus de la tête de Deschamps, mais là elle est encore plus importante. Alors évidemment, si tu continues dans cet esprit-là mais que tu parviens à faire bien jouer ton équipe, tu peux t'en sortir. Le problème, c'est qu'en plus cette équipe, alors qu'il y a quand même des talents de tous les côtés, eh ben j'ai rarement vu une équipe de France aussi calamiteuse qu'en première mi-temps l'autre jour. Donc est-ce que les mecs sont déjà passés à autre chose? Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est le schéma de jeu impliqué, donné par Deschamps? J'en sais rien, mais c'est vrai que je suis un peu inquiet pour les derniers mois de Deschamps. Moi j'aurais dit j'aurais arrêté d'un seul coup comme ça là.
Mais d'ailleurs, tu vas arrêter.
Non, mais je vais le faire.
Non, mais c'est vrai qu'on se posait la question quand il a fait cette annonce hein, au journal de TF1. On s'est dit, est-ce qu'il prend la bonne décision, Marion? Quand on voit ce qui se passe deux mois après, alors c'est juste une défaite, évidemment. Mais est-ce qu'on n'a pas peur du combat trop? Pour toi, c'est non.
Pour moi, c'est non, parce que de toute façon, soit il a arrêté après le match contre l'Argentine, soit il continue jusqu'à la Coupe du Monde 2026. S'arrêter maintenant ou il y a un mois, ça n'a aucun sens. T'es à une échéance de la Coupe du Monde 2026 qui se rapproche extrêmement rapidement, surtout que le nombre de rassemblements qui va rester en équipe de France sont extrêmement réduits. Donc, s'arrêter maintenant, c'est quasiment même donner aucune chance à l'équipe de France et aux nouveaux sélectionneurs d'arriver à bâtir quelque chose. Donc, soit il s'arrêtait à la fin de la Coupe du Monde 2022, se sentir au but perdu, mais c'est quand même une finale de Coupe du Monde, et puis rideau, soit il continue jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2026. Après, moi, j'ai une lecture un petit peu différente. Pour moi, cette Ligue des Nations, ça reste quand même, alors même si on la vend comme une compétition avec un trophée à la fin, ça reste quand même des matchs d'exhibition. Et que ces matchs amicaux, de toute façon, les joueurs qui sont sur le terrain sont des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens, qui sont quasiment tous encore en Ligue des Champions, qui ont un calendrier surchargé, et qui donc arrivent avec une motivation qui est plus que discutable. Quand on voit la première mi-temps qui est totalement mais cataclysmique de l'équipe de France, je ne peux pas arriver à penser, compte tenu de niveaux qu'ils sont capables tous d'avoir en club, que c'est leur niveau maximal. Je peux pas arriver à envisager cela, parce qu'on l'a vu d'ailleurs en deuxième mi-temps, c'était quand même beaucoup mieux. La Croatie est repassée en bloc bas, ils ont quasiment plus eu aucune occasion, et effectivement on a perdu ce match sur la première mi-temps où là il y avait absolument rien. Il y a des joueurs qui ont été complètement transparents, qui ont été à des niveaux, mais quand tu vois Jules Koundé qui est un titulaire
indiscutable dans son club, mais voilà. Donc, le
le problème que j'ai là-dessus sur ce match, c'est effectivement un choix très défensif de Didier, mais on connaît le schéma tactique de Didier, on va pas tomber de la chaise quand on voit son schéma tactique. Déjà de 1, parce qu'il joue à l'extérieur, des joueurs pas présents du tout mentalement sur le terrain, et donc effectivement, au final, ça fait une mauvaise mayonnaise.
Ok, problème de motivation. Écoute, est-ce que tu as peur du combat trop?
Écoute, répondre à la question, est-ce qu'on a peur du combat trop, c'est de savoir s'il va gagner ou pas. Parce que c'est ça la réponse, est-ce qu'il va gagner la Coupe du Monde ou pas. Moi, je pense qu'il ne gagnera jamais. il n'en gagnera plus. Parce que il est rentré dans une philosophie de jeu où il n'en sortira jamais, parce que c'est jusqu'au boutiste. Il va aller au bout de ses convictions.
Après, il a déjà gagné comme ça.
Non, mais quand j'entends Marion qui parle de match amicaux, il n'y a pas de match amicaux, je suis désolé. Quand tu fais une bouillie comme ils ont fait, mais c'est honteux. Je te dis que t'es l'équipe de France, t'es les meilleurs joueurs du monde. Honteux. Mais non, mais je veux dire par là, c'est que il y a un vrai problème quand même dans la stratégie, dans les choix de Didier Deschamps quand même. Quand tu mets un milieu de terrain qui est pas offensif, c'est très bien, alors que tu as Dembélé, Mbappé devant, qui sont les deux meilleurs peut-être aujourd'hui avant centre au monde, tu te dis mais comment il peut mettre un milieu comme ça? Donc moi je me dis qu'il va aller au bout de ses convictions, qu'on changera pas de schéma de jeu, qu'on fera toujours ce jeu physique qui où il y a pas de créativité. On n'en demandera pas à des joueurs de créatifs de venir donner un ballon à Dembélé ou à Mbappé pour faire des différences.
Mais cette année va être longue, c'est ce que tu veux nous dire.
Très longue, mais très longue. Là on gagnera pas contre les Croates à Paris.
Attends, ne sois pas comme ça. Ah, d'accord, c'est fait, on fait pas le match.
Non,
alors.
Mais la compo va changer. Si l'équipe de France marque tôt, tu sais très bien qu'ils peuvent parfaitement en mettre deux et partir en prolongation au Stade de France.
Et tout sera oublié. Et le match de jeudi sera oublié.
Tout ça va être long parce qu'on attend Zizou maintenant. On sait qu'il va arriver, mais on l'attend.
Non, pas Zizou, t'es en train de gagner surtout. T'es en train d'une belle équipe de France. Ouais. C'est pas vrai. Tu peux pas dire qu'il y a que Zizou.
Tu attends d'être enthousiaste. Oui, évidemment, il y a quand même l'ombre et Christophe a raison de Zinedine Zidane. Jérôme Pinault.
Après, je trouve que c'est un peu trop vite rabaissé tout le travail qu'a fait le sélectionneur et surtout les joueurs. Et le staff qu'il y a autour. Moi, je pense que Didier Deschamps, il est pas dans son dernier combat. Pourquoi? Enfin, ce sera pas le combat trop parce que je pense qu'il y aura réaction des joueurs et qu'il a à son service une génération exceptionnelle. Qu'en sélectionnant les meilleurs joueurs du monde, parmi eux, beaucoup sont français. S'il a cette idée-là d'aller jusqu'au bout de la Coupe du Monde, de toute façon, il va sélectionner les meilleurs joueurs. Et là, il faut quand même penser à quelque chose. Le groupe. Il y a des garçons qui, en 2026, vont jouer peut-être, certainement, leur dernière Coupe du Monde. D'autres qui ont besoin de s'affirmer. Je pense à un gamin comme Désiré Doué. Lui, Deschamps, pas Deschamps, il a besoin de s'affirmer en équipe de France. Donc, il a besoin de montrer des choses. Le groupe, je suis pas de ceux qui pensent que quand le match est parti, c'est le sélectionneur qui continue à décider. Non, les joueurs jouent. Ils étaient pas bons. Ils ont pas été bons mercredi dernier.
Non, la composition d'équipe, c'est les joueurs, mais c'est un collectif.
Adrien Rabiot a été très mauvais l'autre jour. À un moment donné, le gars, il est aussi capable de jouer devant et d'être offensif. S'il sent que son équipe est en difficulté, dans une grande compétition, et encore une fois, dans une grande compétition, et c'est là où je te rejoins. La question, c'est est-ce qu'on peut être champion du monde? Oui, mais c'est ça le combat. C'est pas de gagner la Ligue des Nations. Le match. Dernier match contre la Croatie était loupé, raté, mais ne tirons pas de conclusion. C'est un match de Ligue des Nations, il ne s'était pas vu depuis 6 mois.
On a mis le jeu depuis quand? Explique-moi. À l'Euro, est-ce que tu as trouvé l'équipe de France plaisante? Je suis désolé, moi, je n'ai jamais été enthousiasmé.
Alors, moi, je fais partie de ce l'Euro. Débat. Et ça tombe bien, c'est la première fois qu'on est ensemble autour. Moi, je fais partie de ce débat de dire bien jouer et perdre, je m'en fous, en fait.
Oui, mais tu as perdu contre les Espagnols. Tu as pris une leçon de football.
C'est
pas un esthète, Jérôme, c'est bien ton problème.
Gardez quelques cartouches, évidemment. On continue le débat dans les grandes gueules du sport avec Mario Bartoli, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, Denis Charvet, Didier Deschamps. Avez-vous peur du combat de trop? Venez nous dire ce que vous en pensez au 32-16 et puis dans une dizaine de minutes on reviendra sur les qualifications du Grand Prix de Chine avec la pole position pour Oscar Piastri. Mais il y a beaucoup de choses à dire et notamment cette victoire de Lewis Hamilton lors de la course sprint cette nuit. A tout de suite sur RMC.
Salut, c'est Didier Deschamps.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée un peu, non?
Salut, c'est Jean-Christophe Drouet, c'était Didier Deschamps il y a quelques instants. On continue de parler du sélectionneur avec Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Jérôme Pinault, Denis Charvet. Je le disais, dans 10 minutes, restez bien avec nous. On va débriefer les qualifs de Formule 1, le deuxième Grand Prix de la saison. Ça se passe en Chine avec une très belle performance cette nuit de Lewis Hamilton. On sera avec Jean-Luc Roy et puis à partir de 10h, on parlera du 15 de France. Mais restons un instant sur notre équipe de France battue 2-0 donc face à la Croatie en quart de finale aller de la Ligue des Nations. Le match retour, c'est demain soir au Stade de France. Didier Deschamps, avez-vous peur du combat de trop? On va accueillir Cédric au 32-16. Bonjour Cédric.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On est ravis de t'accueillir. Bonjour. Ce matin. Quel est ton avis?
Alors, mon avis, c'est que en fait, on met le combat sur Didier Deschamps, mais en fait, c'est le combat de toute une équipe, de tout un pays, et c'est pas celui de Didier Deschamps.
Ok, donc pour
le débat, c'était
mais
Didier
c'est quoi
Deschamps.
Non, mais ça veut dire c'est pas de sa responsabilité. C'est-à-dire que toi, c'est le fait qu'il ait annoncé son départ, qu'il a encore une année à faire et tout ça, il y a aucun problème autour de ça.
Pour moi, il y a aucun problème. Comme a dit, j'ai mangé le nom de votre
Jérôme Pinault ou Marion Bartoli.
Non, Marion. Voilà, j'ai oublié. Marion, oui, désolé. Didier Deschamps va jamais changer son système de jeu, ça on le sait. Avec ce système, il nous a quand même fait être champion du monde et aller jusqu'en finale d'une autre Coupe du Monde. Donc il changera pas, ça c'est sûr. Par contre, moi j'ai envie de mettre la responsabilité un peu sur les joueurs qui s'investissent davantage dans cette équipe, parce qu'on a l'impression que quand ils arrivent en équipe de France, ça donne l'impression qu'ils sont pas autant motivés que quand ils sont en club. Mais je pense qu'en fait c'est simplement dû au fait qu'ils jouent pas assez ensemble. Peut-être faudrait peut-être allonger leur rassemblement quand ils sont ensemble. Ça c'est la première des choses. Et puis la deuxième chose, arrêter de les mettre en avant. L'institution est plus importante qu'eux. Et là, en ce moment, on ne parle que de Mbappé, de Dembélé, et c'est l'équipe de France.
Ce qui est vrai, c'est
que... Non, mais t'as le poids du maillot aussi, hein. Il y a le poids du maillot porté, hein. Le poids du maillot de l'équipe de France, et, sur certains joueurs, on voit très bien qu'il y a quand même, on voit Saliba. Saliba d'Arsenal, il fait quand même des matchs quasiment tous les week-ends où il est très bon. Hier, il a pris l'eau, mais à un degré, c'était, on a quasiment, tu le reconnais pas. Colomwani, il était sur le terrain, t'as l'impression qu'il était pas là. Il a dû toucher deux ballons de toute la première mi-temps. Enfin, il y a quand même des joueurs qui n'ont pas le même niveau. Dembélé, qui marche sur l'eau depuis 4 mois, il n'a marqué quand même que 6 buts. En équipe de France depuis qu'il a commencé ses premières sélections en équipe de France, ça fait 9 ans. Donc il y a quand même un problème de niveau entre les certains joueurs qui ont des niveaux en club qui sont exceptionnels et qui, par le poids du maillot, peut-être effectivement qu'ils jouent pas assez ensemble, peut-être qu'il y a moins d'automatisme, peut-être que il y a une pression supplémentaire, je sais pas, je connais
évidemment
pas les raisons exactes, mais qui n'ont pas le même niveau.
Tout le monde n'a pas la chance de faire Galtier d'avoir des joueurs pendant 4 mois,
il y a quelque chose qui est très important à mettre en avant. Déjà, faut pas oublier le passé. On a eu fait des matchs contre l'Ukraine à une époque où on était complètement
2013,
mauvais,
oui, bien sûr.
Et une semaine après, la tendance...
Il y a 12 ans, enfin.
Je te parle d'autre chose. Le match contre la Croatie, c'est un problème d'implication des joueurs qui... On manquait d'envie. Attention, on a aussi joué contre une équipe croate. Je défends personne. L'équipe de France doit être meilleure que ça. Mais on a aussi joué contre une équipe croate. Elle, c'est sa Coupe du Monde, là. Il y a une génération, 2026, seront déjà très cramé. Eux, ils ont une chance de gagner ce titre-là.
Mais quand tu vois l'implication. Modric, qui à la 89e, va piquer un ballon à Dembélé.
Mais
à
si
Mbappé
tu joues, si l'équipe de France, si l'équipe de France joue au rythme qu'elle doit jouer, c'est-à-dire engagée, complète, dans une compétition, et ce sera le cas à la Coupe du Monde, la Croatie
est-ce qu'on se voit pas trop beau? Je sais pas qui disait, on a une génération exceptionnelle. Mais c'est pas parce qu'on a Mbappé et Dembélé qu'on a une génération exceptionnelle.
Non, mais attends, mais tous les joueurs, j'en aurais plus grand cœur.
On a eu une pauvreté technique incroyable, sans rigoler. Je sais pas, quand tu vois jouer les Espagnols, le collectif des Espagnols, c'est bien huilé, c'est technique, c'est beau à voir. Nous, on a quand même un déficit technique. Je sais pas, moi, quand tu me diras, ça vient aussi, je répète, de ce milieu de terrain que tu mets, qui est pas du tout offensif. Donc, quand même, ça vient au départ d'une envie de Didier Deschamps, d'évoluer comme ça. Donc, pour ça que vous accusez les joueurs. C'est facile d'accuser les joueurs. Après, il faut se fondre dans un système qui te va bien. Le système Mbappé, il va bien quand il est au Real, mais quand il est en équipe de France, c'est pas le même. Je suis désolé. Et c'est pour ça qu'il est peut-être pas aussi libre dans un système comme celui de l'équipe de France que celui du Real.
Alors après, il faut qu'il s'habille.
Et même, tu prends Dembélé, c'est la même chose.
Mais il y a aussi, tu prends l'exemple de l'Espagne. L'Espagne, la racine et l'ensemble de l'effectif de l'équipe, d'équipe espagnole, c'est quand même une grosse partie du Barça. Et ça, tu peux. Et aujourd'hui,
c'est aussi
ils jouent
des joueurs différents. Aussi, c'est
après,
des joueurs.
Moi, Denis, je défends pas le sélectionneur. Je dis juste un truc.
J'arrive, Marion.
C'est que si le fait que Didier Deschamps ait annoncé la fin, ça joue sur le mental et sur l'implication des joueurs. Bah, c'est dommage quand même.
Moi, je le pense pas, mais bon.
Mais ça, est-ce qu'on peut l'imaginer, Christophe? Les joueurs, ils ont une Coupe du Monde à aller jouer. C'est rien. Didier Deschamps.
Je crois qu'on tire beaucoup de plans sur la comète après un pauvre petit match. Il ne s'était pas revu depuis des mois. Dembélé depuis a pris son envol au Paris Saint-Germain. Donc, il faut adapter un peu sa façon de jouer en équipe de France avec Mbappé. C'est pas toujours facile d'avoir de grandes stars. C'est pas la preuve que tu vas. Oui, mais est-ce que tu peux le faire en si peu de temps. Il a eu 3 jours pour les mettre en. Non, bah, Galtier a plus de temps régulièrement. Oui. Tu vois, pendant un tournoi, il a les mecs à disposition. Il a un groupe de 42. Deschamps, il fait avec ce qu'il peut et les moyens. Il n'a pas d'énormes moyens non plus en équipe de France, sauf en période de Coupe du Monde ou d'Euro. Donc, attendons de voir ce qui va se passer demain soir. Si l'équipe de France est aussi catastrophique au match retour, là, il faudra vraiment commencer à se poser des questions. Mais là, on va pas jeter bébé, l'eau du bain, la grand-mère dedans et la poussette dans la rivière. Attendons 5 minutes, quoi.
Même demain soir.
Nouvelle expression.
Mais ce qui me rend fou avec
Deschamps. Je peux rajouter un élément?
Oui, vas-y, pardon.
Vas-y, non,
je suis complètement d'accord avec ce que Christophe vient de dire. Et prenez Jules Koundé, qui actuellement est avec Hakimi, le meilleur back droit au monde. Enfin, je dis, il s'est fait tourner pendant toute la première mi-temps.
Alors qu'avec le Barça,
alors que le Barça, il est monstrueux, ouais, il est titulaire à tous les matchs, tu vois. Quand tu vois, par exemple,
Konaté, pas mal quand même aussi avec
Konaté, exactement pareil. Mais même, il y a des fois dans le foot, il y a des choses, tu ne l'expliques pas. Tu prends, il y avait Maroc-Niger. Tu prends Hakimi, qui est pareil, qui est quand même au PSG, tu peux pas dire qu'il fait pas des gros matchs. Il jouait contre le Niger. Il y a 6 joueurs qui avaient pas de club au Niger. Pendant une première mi-temps, il s'est fait avaler. Il y a des moments donnés, tu sais pas pourquoi, il y a des joueurs qui effectivement ils arrivent en sélection et c'est plus dur, quoi.
Marion,
Chouameni, regarde au Real, Chouameni, il est titulaire incontestable avec Ancelotti, tu veux faire quoi? Tu vas pas mettre sur le terrain
pour jouer? Motivation, j'y sais, j'en reviens pas qu'à ça. Je pense que aussi, en fait, que cette génération, on la voit trop beau, trop belle. Je pense qu'il y a de ça aussi.
Mais franchement, tous dans des grands clubs, Denis, t'as Real, Barça, PSG, Arsenal, mais attends, Liverpool, mais Marion, Bayern, contre, Milan.
Là où
c'est que
je te rejoins pas,
clubs.
Tu peux être très bon dans ton club. Oui, ça rien à voir. L'équipe de France, faut jouer ensemble.
Absolument.
Et c'est pas les mêmes coéquipiers. Il faut se mettre au service du collectif.
Et pardon.
Est-ce que dans ce collectif-là, la question qu'on peut se poser, est-ce que dans ce collectif-là, l'ossature a envie de se mettre au service du collectif? C'est ça la
Mais regarde, en novembre, ils ont joué avec 3 milieux def. Non, mais parce qu'on parle du 3 milieu def, qu'il aurait pas dû jouer avec 3 numéros 6, etc., etc. Mais en novembre, quand ils battent l'Italie 3-1, ils jouent avec 3 milieux def.
Ouais, mais c'est pas un joli match.
En fait, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais ok, mais tu vois, ça marche.
C'est laborieux, quand même, Marion.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais quand tu es dans le logiciel.
T'as été champion du monde en étant laborieux, mais t'es champion du monde quand même.
Pas en 2018.
Exactement.
Pas en 2018, parce que t'avais qui? T'avais des Pogba, t'avais des Kanté, t'avais des joueurs.
T'avais d'autres joueurs.
Mais t'avais pas les mêmes joueurs. Je suis désolé. Et là, t'as plus Griezmann. On parle pas de Griezmann, mais t'as plus Griezmann, t'as plus des joueurs hors normes qui te faisaient parfois
les
différences.
Denis, regarde les phases de poule de 2018, c'était pas flamboyant, hein. Tu vois, et en fait, cette équipe, elle a commencé à prendre forme à partir des phases finales. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé du temps ensemble, ils ont commencé à jouer ensemble, ils ont fait des entraînements ensemble et que ça a pris petit à petit.
Mais c'est dur, en 3-4 jours, on arrive à les faire jouer ensemble. Je suis désolé, j'ai rien contre Gendouzi.
Mais je suis d'accord, mais tu peux tirer à boulet rouge sur Gendouzi.
Mais je tire pas à boulet rouge. C'est le haut niveau, c'est le trop haut niveau. Je ne tire pas à boulet rouge. Je dis, est-ce qu'ils ne vont pas jouer?
Dans tous les débats depuis que la France a perdu, à chaque fois il y a Gendouzi qui arrive dans au cœur du débat et tout le monde dit
oui,
attendez, j'ai rien contre Gendouzi.
Mais quand même, je parle de lui
parce que justement sur le banc il y a Camavinga. Je me dis quand même, Camavinga c'est notre joueur que Gendouzi, je sais pas moi. Mais c'est pour ça que je
le dis parfois. Mais t'as Koné aussi, hein.
Justement, je ne comprends pas les choix de Didier Deschamps qui s'entête à vouloir mettre 3-6 au milieu. Alors, voilà, c'est tout.
Pour le coup, je pense que Camavinga est l'un des joueurs avec qui ça passe pas et qui
et
sera
pourquoi ça passe pas
trop fougueux vers l'avant, il porte trop la balle, c'est pas dans le schéma de Deschamps.
Il faut l'installer un joueur, si tu veux qu'il réussisse, il faut l'installer.
Mais il va pas l'installer puisqu'il s'en va.
Mais c'est pour ça qu'il installe Gendouzi, parce qu'il a envie que Gendouzi réussisse. Est-ce que tu savais que ça allait t'énerver?
Mais non, mais il va jamais jouer avec le même système au Stade de France.
Est-ce qu'on a déjà quelques
de toute façon, tu es obligé de marquer, donc tu vas changer la compo.
Quelques informations justement, toujours avec nous Valentin Germain, tu suis cette équipe de France. Est-ce qu'on a déjà quelques indications avant le match de demain?
Ça devrait changer à chaque ligne. Au niveau du système, ça pourrait changer, ça devrait changer. On ne devrait pas avoir Dembélé dans une position axiale. Et puis à chaque ligne, on devrait avoir au moins un changement. Upamecano devrait former la charnière avec Saliba, puisque Christophe l'a dit, Konaté a été sorti à la mi-temps. Il a été très décevant. Difficile d'imaginer revoir Gendouzi. Donc ça pourrait être Manu Koné ou Camavinga. Petite interrogation autour de Rabiot aussi, qui n'a pas été très bon. Et puis devant, Randal Kolo Muani, qu'on a très peu vu, ne sera pas titulaire. Donc Barcola peut avoir sa chance, notamment pour débuter ce match.
De Olysée, non?
Ou Olysée, c'est un des deux, ce serait Barcola ou Olysée en fonction de comment les.
Et Désiré Doué
ne sera pas. pas titulaire sauf très grosse surprise, mais on peut s'attendre à sa première sélection, d'autant que la France devra marquer. Donc c'est un joueur offensif et créatif.
Ok, merci beaucoup pour toutes ces informations, informations que vous pouvez retrouver sur rmcsport.fr. et puis on reparlera demain.
Il est bon, jeune, ouais,
demain,
très bon,
hein.
Je
pensais que tu parlais de Denis,
très, très,
ce vieux là.
Merci Valentin, bonne journée. rmcsport.fr pour toutes les informations autour de l'équipe de France. Allez, direction la Chine dans quelques instants avec le Grand Prix, deuxième Grand Prix de la saison, Lewis Hamilton et Oscar Piastri qui a signé il y a quelques instants la pole position de la séance de qualification. Sachez que Hadjar est septième, donc forcément on en parlera dans quelques instants avec Jean-Luc Roy. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
We're gonna rumble in the jungle.
Les grandes gueules du sport.
Let's get
Jean-Christophe Drouet.
9h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Marion Bartoli, Jérôme Pinault, Denis Charvet. Oui, nous allons parler évidemment ce matin, nous l'avons appris cette nuit, la mort, le décès de George Foreman, légende de la boxe. On en parle à 10h30, restez bien avec nous à 10h. Le 15 de France avec cette tournée en Nouvelle-Zélande cet été, voir les cadres en Nouvelle-Zélande, possible ou impossible, c'est extrêmement serré dans le studio RMC, ça l'est également sur le compte X des grandes gueules du sport. Vous êtes très nombreux à avoir voté et je crois que là, à l'heure où on se parle, c'est du 50-50, donc n'hésitez pas à aller sur le compte X des grandes gueules du sport. Mais tout de suite, le Grand Prix de Chine. Le deuxième Grand Prix de la saison, il s'est passé beaucoup de choses ce matin. Déjà, très très tôt, il fallait être réveillé. La victoire de Lewis Hamilton, la première avec Ferrari lors de la course sprint. Et puis, il y a quelques minutes, il y a eu la séance de qualification. Et c'est Oscar Piastri qui a signé la première pole position de sa carrière. Sachez que Hadjar, notre Français malheureux lors du premier Grand Prix en Australie, termine lui septième de cette séance de qualification. Le Grand Prix, ce sera demain à partir de 8h. Et évidemment, on suivra la course dans les grandes gueules du sport avec Jean-Luc Roy qui est avec nous. Salut Jean-Luc.
Oui, salut JC, salut, bonjour
Jean-Luc.
À tous.
Bon, déjà, salut, Jean-Luc. Évidemment, on a envie de revenir sur cette performance magnifique que l'on n'attendait pas aussitôt dans la saison. Lewis Hamilton qui a remporté son premier succès, Jean-Luc.
Eh ben oui, écoute, c'est fantastique, surtout après le Grand Prix à Melbourne, hein, sous la pluie. Alors il a donné plusieurs explications, Lewis, pour dire pourquoi d'abord il ne se sentait pas dans la voiture en Australie. Il n'avait pas pu faire un long relais en fait lors des essais à Bahreïn, les trois essais préliminaires au mois de février. Donc il n'avait pas pu rouler comme il voulait, il n'avait pas pu appréhender toute la palette de réglages, et donc il se sentait pas très bien dans la voiture, d'où donc ce résultat un peu en demi-teinte. Et puis vous vous en souvenez, bien sûr, la course avait été tellement difficile avec l'alternance de pluie, de sec. Enfin bon, il avait terminé dixième, il avait sauvé les meubles, il était resté sur la piste et voilà. Et puis là, sur ce tracé de Shanghai qui est, on va dire, plus conventionnel, qui a d'ailleurs été complètement resurfacé, qui est très lisse et qui lui convient parfaitement à lui et à la Ferrari. Donc il a pu procéder à des modifications de réglage et dès le début, on a compris qu'il se sentait vraiment très bien et mieux que Charles Leclerc, qui est quand même la référence dans ce domaine, hein, puisque c'est lui qui est à la maison, c'est lui qui est chez Ferrari depuis 2019. Et ben le résultat était déjà cette pole en sprint, ce qui est absolument fabuleux. Donc c'était évidemment sa première pole en rouge et la première victoire de Ferrari en sprint, la troisième de Lewis. Donc il est parti devant. Alors la clé de la course, hein, du Grand Prix, je vous la donne déjà, ça va être la gestion des pneumatiques. Et c'est vrai que pour Lewis, en ayant décroché la pole et en étant parti devant, ben c'est plus facile, enfin moins difficile si vous préférez, de gérer les pneumatiques et notamment le pneumatique avant gauche qui se dégrade très facilement. Alors après, il a repoussé les assauts de Verstappen qui n'étaient pas loin du tout pendant toute la première moitié du sprint, c'est-à-dire une dizaine de tours. Ensuite, eh bien, c'est Verstappen, lui, qui avait dégradé ses pneumatiques, qui a laissé pas passé, mais Oscar Piastri a pris le meilleur et Piastri n'est pas parvenu à revenir sur Lewis. Donc, magnifique victoire de Lewis.
Exactement.
En plus.
Et on parle
très populaire en Chine, hein. 6 pôles, 6 victoires. Donc là, vraiment, c'était du délire dans les tribunes.
Et on parlera de la séance de qualification qui a eu lieu juste après. Donc c'était à 8h ce matin et des conséquences sur la grille pour le Grand Prix de demain. Mais un instant, les GG sur Lewis Hamilton. Christophe, on se posait la question la semaine dernière de savoir si, voilà, à quel moment il allait pouvoir entrer pleinement dans cette écurie Ferrari. Là, dès le deuxième Grand Prix, on a déjà un début de réponse, quoi.
Ouais, non, mais c'est une très belle performance réalisé par Lewis. Maintenant, il va falloir le concrétiser sur un Grand Prix, parce qu'on sait que dans un Grand Prix, la hiérarchie, la, la technique et la tactique est plus importante avec les Italiens, ne savent pas vraiment faire avec la tactique. On l'a bien vu depuis quelques mois. Donc est-ce que ils vont pouvoir gérer les pneus, gérer les arrêts au stand, on verra ça. Mais il reste un coureur et évidemment un très talentueux, il l'a montré. Maintenant, on va voir comment on va réagir.
S'il pleut pas, ça ira du
notre ami, notre ami Leclerc, t'as dû chauffer les oreilles un peu quand même.
Le titiller, sachez que sur la grille de départ, et on va en reparler avec Jean-Luc, Lewis Hamilton a signé la cinquième place. Charles Leclerc est juste derrière, il est sixième. Marion sur Lewis Hamilton, rapidement, parce qu'après je voudrais qu'on parle évidemment du Grand Prix de la grille de départ.
Très rapidement, effectivement, c'est un circuit qui lui convient extrêmement bien, comme l'a évoqué Jean-Luc. Et puis surtout, il a signé le record historique du tour le plus rapide jamais tourné sur circuit à Shanghai en 1:30849. Et pour preuve, il a continué à garder ce rythme pendant cette course sprint, puisqu'il a mis quand même 6,8 secondes à Piastri deuxième, 9,8 secondes à Verstappen et 12 secondes à son coéquipier Leclerc. Donc il a été capable de garder ce rythme et garder cette vitesse. Et effectivement, de le voir aussi heureux, aussi épanoui à la fin, tomber dans les bras de son papa, ça m'a forcément énormément ému. Et ça remonte encore une fois ce qu'on avait évoqué avec Fred Vasseur lorsqu'on a pu l'interviewer, cette volonté chez lui, chez Hamilton, de venir chez Ferrari pour gagner et pas uniquement pour simplement changer d'écurie, mais vraiment avoir être en position en tout cas de viser le titre de champion du monde à la fin de la saison.
Alors quelques heures plus tard, les qualifications avec Oscar Piastri qui, je le disais, a signé sa première pole position en carrière, George Russell est deuxième, Lando Norris troisième, Verstappen quatrième, donc Lewis Hamilton cinquième, Leclerc sixième, et alors là, Isaac Hadjar, septième, lui qui a été malheureux comme tout, est sorti du Grand Prix la semaine dernière. Il a même pas fait le départ lors du tour de chauffe. C'était vraiment une image horrible à voir pour ce jeune pilote français. Écoutez, Isaac Hadjar, il y a quelques instants, il est donc septième de ce Grand Prix de Chine avant la course. Demain, septième des qualifications. C'était au micro du diffuseur, il y a quelques instants.
Je pense que c'était un peu un repeat d'hier, sauf que cette fois j'ai concrétisé. Je suis content d'avoir pas fait d'erreur. Et ici c'est tellement compliqué, c'est une piste tellement compliquée. Dans mon tour j'ai fait des trucs que j'aurais pas dû faire. C'est ça que je sais que je pouvais faire mieux que 7ème. C'est pour ça que je suis un peu dégoûté. Quand je vois le classement, c'est sûr que les mecs de devant, on va pas se battre avec eux. Par contre, mes premiers points à F1 ce serait cool.
Il en veut déjà, Jean-Luc.
Surtout que sa voiture est super bien née, j'ai l'impression, parce que normalement elle doit être dans les tréfonds de la grille.
Jean-Luc sur Isaac Hadjar, il est bluffant franchement après ce qui lui est arrivé la semaine dernière.
Ah ben oui, c'est remarquable. Il fallait qu'il fasse tout, qu'il reparte de zéro, c'est le cas de le dire. Et là, on a bien compris que cette piste lui convenait. Alors, il était pas très bien qualifié, mais parce qu'il avait aidé son équipier Tsunoda justement en l'aspirant entre guillemets dans la ligne droite pour les qualifs. Tsunoda, je parle de la grille du sprint, Tsunoda était 8e et Hadjar était 15e. Il a fait une belle course, il termine 13e, et là tout de suite on a vu qu'il était dans le coup. Il était toujours avec Tsunoda qu'il précède un petit peu, donc là oui c'est remarquable. Là c'est vrai que c'est une qualif sur le sec, puis on sent au ton de sa voix qu'il est parfaitement confiant.
C'est ce qu'il veut le garçon.
Ouais, non, c'est vachement bien. Alors juste Marion, du coup Piastri a fait un peu mieux que Lewis. Il a fait 1:36.41, mais c'est bien quand même.
Voilà. Non. Il a pris son record.
Voilà, il a voulu remettre l'église au milieu du village. Isaac Hadjar, là, un petit mot, Jérôme Pinault et Denis Charvet.
Non, mais c'est frais, c'est bon. Ouais, le mec, il en veut, il est talentueux, ça on le sait. Et en plus, ses déclats sont fraîches et il reste un parce qu'il dit devant, il y a encore les gros, mais pourquoi pas mes premiers points. Enfin, il a de l'ambition. Maintenant, il faut qu'il tienne ses nerfs, que sa fougue soit bien canalisée. Mais ça, c'est sa jeunesse qui fera. Mais en tout cas, s'il a du talent, et comme le dit Christophe, la voiture aussi est bien.
Il est déjà conscient de son potentiel. Ouais, c'est incroyable.
Il arrive à analyser comme il faut.
Il a du recul déjà à son âge. Je trouve ça incroyable.
Jean-Luc,
il y avait une belle image à Melbourne avec le père de Lewis Hamilton qui est venu justement réconforter Hadjar après ce qui lui est arrivé après sa course. J'ai trouvé ça magnifique.
Jean-Luc, juste les autres Français, ils sont combien?
Alors les autres Français, Esteban Ocon pas mal, il était complètement en perdition effectivement en Australie, mais là il s'est qualifié 11e, donc il était aux portes de la Q3. Malheureusement Pierre Gasly c'est plus compliqué, éliminé en Q1, 16e sur la grille, donc ça va être les Alpines, ça va être moins bien. 16e pour Pierre Gasly et Jack Doohan est 18e.
À demain Jean-Luc à partir de 8h du matin pour le Grand Prix de Chine, deuxième Grand Prix de la saison. Nous on prendra l'antenne à 9h, évidemment on en parlera dans cette émission. émission de ce deuxième Grand Prix de la saison. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Emmenez les cadres, les joueurs premium du 15 de France en Nouvelle-Zélande. Possible ou impossible, c'est un 2 contre 2, c'est un bras de fer des GG dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.